One, two, ten, shake. It's okay. That's it, man.
Proboscopie, l'émission politique de divergence aux commandes le loup et le renard. La bolette est absente, elle doit être perdue du côté du golfe du Mexique dans des histoires pétrolières. Enfin, bon, on sait pas trop quoi. Et avec nous, pour vous, Jacques Domergue, l'homme qui a vu le président.
Ah oui,
ça, c'est pas tout le monde, ça. Hein.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Bonsoir.
Le président de quoi?
C'est pas pareil.
Devinons.
Alors, durant 90 minutes, nous allons naviguer en perpénard le long des rives sarkoziennes. Nous divergerons ensemble sur le petit Nicolas, notre président mondialisé, une aubaine pour nous. S'il devait penser devenir un jour président de l'Union, pourquoi pas en 2012, après le mandat de M. Van Rompuy. Au-delà, nous pinaillerons les réformes sarkoziennes et particulièrement, nous aborderons la question des retraites pour les papy-boomers. Nous discuterons aussi de la réforme du mode de scrutin pour les élections à venir, dont celle concernant les nouveaux territoires. Et puis enfin, nous partirons bras dessus vers l'Élysée et Jacques Domergue nous donnera la primeur de sa rencontre avec son président. Enfin bref, de quoi passer un bon petit moment citoyen, vous en conviendrez. Et maintenant, place aux palabres.
Divergentes et divergents, vous êtes bien calés dans vos fauteuils. Quelques glaçons dans vos verres respectifs. Bon, vous le savez, à Proboscopie, rien ne peut se faire sans l'Uchronie du loup. Ce soir, il sera question d'européaniser le petit Nicolas en lui prêtant les habits de président de l'Union. Qu'en est-il, le loup ?
Écoute, depuis quelques lunes, dans les couloirs obscurs du Conseil européen à Bruxelles, des discussions discrètes alimentent les rumeurs quant à l'avenir de la présidence du Conseil européen. Le Belge néerlandophone Herman Van Rompuy, président actuel du Conseil, terminera son mandat à la fin du printemps 2012. Une date qui coïncide bien avec l'élection présidentielle en France. Et la question centrale est, qui succédera à cet homme ? Je veux parler de M. Van Rompuy, qui a l'apparence d'un petit employé de banque, tel que le décrivait le député britannique Nigel Farage. Quel charisme doit avoir ce président du Conseil de l'Union ? Quel rôle doit-il jouer au sein de l'Union et à l'extérieur ? Qui peut être celui qui incarnera le mieux les intérêts composites des 27 membres de l'Union ? Et voilà que dans les coursives bruxelloises circule un nom qui résonne jusque dans les salons du palais de l'Élysée. Celui du petit Nicolas. Et pourquoi lui ? Qui a soufflé cette idée qui peut sembler saugrenue ? Il est un véritable pitbull et l'a démontré lorsque la France a présidé l'Union en 2008. Il a une stature internationale, tutoyant et tripotant les grandes de ce monde. Il maîtrise plutôt bien la chancelière et il est devenu incontournable au Conseil. Il paraît être le candidat idéal. Il bouscule les vieilles habitudes et a su mettre en œuvre le traité de Lisbonne. Bon, traité certes qui a montré toutes ses limites dès les premiers jours. Et voilà que l'idée fait son chemin. Le petit Nicolas envisagerait même un tandem avec, non, si, DSK. Les postes et les rôles restent à préciser. En 2012, après une victoire lors de la présidentielle, il démissionnerait pour ce poste à Bruxelles. DSK reviendrait dans la course élyséenne et les deux larrons s'occuperaient qui de l'Europe, qui de la France de concert. Et de réaliser le doux rêve d'Éric Zemmour, faisant de l'Europe une grande France en ressuscitant un empire gallo-romain qui serait plus méditerranéen qu'atlantique. Depuis que court la rumeur, les journalistes d'investigation n'ont de cesse de trouver la source. Qui a bien pu souffler cette idée saugrenue ? Et nous tous, les citoyens européens, de nous interroger. Ah, bien sûr, encore une fois, tout ça n'est qu'uchronie. Mais comme d'habitude, si tout n'est pas entièrement vrai, rien n'est tout à fait faux. Et maintenant, place au débat. Un petit coup de musique militaire, s'il vous plaît, au niveau de la technique. Passons, s'il vous plaît, maintenant aux choses sérieuses. En la compagnie de Jacques Domergue, encore une fois, l'homme qui a vu le président. Et là, c'est pas tous les jours dans nos studios qu'on a quelqu'un qui a vu le président. Là, on est flattés aujourd'hui.
Alors, si on l'a vu, on l'a vu de loin.
Et nous, on l'a vu de loin.
Moi, j'ai vu de près.
On va en parler de ça. Alors, ensemble, ce soir, on va diverger, pinailler autour de trois débats. Tout d'abord, nous allons revenir sur la question européenne. Question d'autant plus fondamentale que les solutions à la crise que nous vivons depuis plus de 2 ans se trouvent incontestablement à Bruxelles. Au-delà, nous reviendrons en notre douce France et à Montpellier, quid de la réforme des collectivités territoriales, des changements de mode de scrutin et comment vit le député de la majorité au sein de l'opposition municipale, départementale et régionale. Et puis surtout, nous allons lui demander de nous conter ses aventures élyséennes, car notre invité d'aujourd'hui a vu le président. Que se sont-ils racontés ? S'est-il fait remonter les bretelles ? S'est-il fait amadouer ? En est-il revenu sarkozien comme à la première heure ? A-t-il osé lui dire le fin fond de sa pensée ? Bon, de quoi débattre et diverger avec notre invité, Jacques Domergue. Mais avant, Jacques Domergue, alors bien le bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, oui.
Mais avant, maintenant, cette nouvelle formule au niveau de l'émission, on a d'abord la question qui tue. La question qui tue, on ne va pas la poser pendant 12 semaines, parce qu'à part, vous allez tous la connaître. Mais enfin, ce n'est que la troisième semaine. Alors Jacques Domergue, quel type d'homme politique êtes-vous ? Si l'on en croit Arthur Schnitzel, il y a 3 sortes d'hommes politiques. Ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble, et ceux plus doués qui troublent l'eau pour pêcher en eau trouble. Vous faites partie de quelle catégorie ?
Écoutez, je ne me reconnais dans aucun de ces 3 pêcheurs, si j'ose dire. Je pense que je suis un homme politique entier et sincère. Alors ça me vaut parfois des déboires, parce que je dis des choses de manière parfois un peu abrupte. Mais
d'où votre invitation, convocation ?
D'où mon invitation, c'est pas une convocation, d'où mon invitation à aller rencontrer le président entre les 2 tours des élections régionales.
D'où le besoin de président.
Je connais par contre beaucoup de politiques qui adorent les eaux troubles et qui nagent allègrement dans ces eaux troubles. Malheureusement, il y en a beaucoup trop.
Alors, je
ne donnerai pas de nom parce que je m'attirerai les foudres. Mais certains de vos auditeurs reconnaîtront ce que je veux cibler aujourd'hui. Mais je crois que ce qui se passe actuellement...
Il y en a un wagon aussi bien à gauche que à droite, non ?
Il y en a de 2 côtés, bien sûr. Bien, ça, c'est, de ce côté-là, on est à parité.
Il n'y a
pas de problème. Chacun a son fardeau. Mais vous savez, la période dans laquelle on vit actuellement et les difficultés budgétaires que rencontrent les différents États, notamment l'Europe, font que si vous n'avez pas à la tête d'un État des hommes sincères qui font passer l'intérêt général, les priorités avant ce que l'on appelle la politique politicienne, on va vers des déboires encore plus cruciaux et importants que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a de la place pour les hommes politiques sincères et directs.
Bon, donc vous ne faites pas partie de
aucune des 3 catégories.
Vous troublez jamais l'eau ?
J'essaie de ne pas trop troubler l'eau. Quand je suis obligé de troubler l'eau, je suis mal à l'aise.
Ah, mais ça vous arrive quand même de le faire ?
Ça arrive parfois, bien évidemment. Mais je suis mal à l'aise. C'est pas ma nature, c'est pas moi.
Et puis
moi je suis quelqu'un de transparent et j'aime bien nager en eau transparente.
Et quand l'eau est trouble,
quand
l'eau est trouble, ça vous empêche de pêcher ?
J'ai peur parce qu'il y a des requins partout et on se fait mordre.
D'accord. Et donc, troubler l'eau pour pouvoir pêcher dedans, alors, ça sûrement pas.
Non, c'est pas mon truc.
Ça sûrement pas. Donc selon Arthur Schnitzel, vous ne faites pas partie des plus doués au niveau politique.
Comment ?
Selon Arthur Schnitzel, vous ne faites pas partie des plus doués.
Non, mais je le revendique. Je ne fais pas partie des plus doués dans la caricature des politiques.
Tel que Schnitzel l'a définisé.
Tel que Schnitzel l'a défini.
Après, c'est son
problème. Parce que je crois qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération d'hommes politiques qui arrivent et qui font que la dureté et les difficultés des temps modernes, si j'ose dire, imposent qu'on change un peu nos comportements.
Alors avant qu'on passe véritablement au débat, vous nous avez amené une petite musique.
Oui.
Quelques petites musiques.
Ben voilà.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené comme premier morceau de musique ?
Premier morceau, c'est un morceau de Brassens.
Et oui, et c'est lequel ?
Mais vous allez le découvrir.
Le titre ?
Le titre... Je vous laisse le découvrir.
Oh, d'accord. Alors
certains se reconnaîtront.
On va découvrir donc un morceau de Brassens, éventuellement on en dira 2 mots, juste après le morceau.
Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre leur adressa tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Retour dans les studios de Divergence pour Provoscopie avec Jacques Domergue, notre invité. Alors, le morceau de Georges Brassens, bon, bah, quand on est con, on est con. Il a dit, il y en a qui se sentiront visés. Bon, ok.
Dieu sait s'il y en a sur cette terre.
Non, je crois que c'est presque sans comment.
Comme disait le général de Gaulle.
Alors, ça se reproduit à une vitesse.
Et le pire, c'est que les cons, ça ose tout. Quoi.
Il y en a qui oublient qu'on connaît les que de passage sur la terre.
C'est à ça qu'on les reconnaît. Alors, on pourrait revenir tout d'abord là, sur ma petite chronique. Là. Parce que Nicolas Sarkozy, président du Conseil de l'Union européenne.
Oui.
Bon, 2012, certes, c'est peut-être exagéré. Mais
je le verrai plutôt en 2017.
2017. Donc, ce n'est pas une idée si saugrenue que ça, quoi. Ça pourrait le faire.
Vous savez, après.
Jacques Delors a construit largement l'Union
européenne. Ils n'ont pas le même tempérament. Hein.
Ben non, certes, mais il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Sarkozy, c'est d'être mou. Et on l'a vu quand il était président de l'Union, sans savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a pu faire, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait. Ça, c'est parfaitement clair. Et quand on le voit au niveau du G8, au niveau du G20, enfin sur le plan international, sans savoir si on est d'accord ou pas avec ce qu'il fait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait.
Pour être remuant, il est remuant.
Oui. Et Nicolas Sarkozy, l'allié de DSK. Ou DSK, l'allié de Nicolas Sarkozy. C'est saugrenu, ça aussi ?
Ça
mais l'allié, je dis bien.
Ça pourrait, allié, ça me paraît un peu fort, mais ça pourrait s'appeler un retour d'ascenseur.
Sarkozy qui... pas Sarkozy.
Bah, DSK.
DSK qui ferait un retour d'ascenseur.
Le DSK qu'on connaît aujourd'hui, il a été construit par Sarkozy, parce qu'il a été promu par Sarkozy. Alors, pour s'en débarrasser ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut bien reconnaître que DSK se débrouille plutôt bien au FMI.
C'est ça qui est dramatique. Et aujourd'hui, pour le PS, c'est qu'il n'y a plus que la droite pour trouver que DSK est un garçon bien.
Mais avouez tout de même que quand on voit la gauche qui tend la main gauche à la gauche, très à gauche, je me dis qu'ils ne sont pas forcément en phase avec la période dans laquelle on vit. Ils paraissent totalement déconnectés quand on entend Martine Aubry. Moi, je l'aime bien, Martine Aubry, parce que je pense qu'elle a donné un peu de crédibilité au Parti Socialiste. Mais aujourd'hui, elle est confrontée à un dilemme et à un choix qui est terrible pour elle. Parce qu'elle a compris que si elle recentrait le Parti Socialiste, eh bien, elle allait se heurter à la popularité de DSK. Et donc, à mon sens, il n'y aura pas photo. Et si elle va à la gauche de sa gauche, ce que lui conseillent pas mal de ses proches, elle va se retrouver dans une situation où le PS perdra la crédibilité qu'il a acquise sous sa présidence.
Mais en même temps, Ségolène Royal, visiblement, approuve cette attitude.
Mais Ségolène commence à mettre un peu de plomb dans la cervelle. C'est une bonne nouvelle, plutôt, en disant « moi, je suis prêt à me ranger derrière celui qui sera le mieux placé ». C'est la première fois que je l'entends dire quelque chose de sensé. Moi, j'applaudis. Parce que jusqu'à présent, il fallait vraiment écouter de très près pour savoir ce qu'elle pensait en dehors de ce qu'elle aurait aimé faire. Donc aujourd'hui, il faut que le Parti Socialiste continue de mûrir. DSK, moi, je vais vous dire comment je vois les choses. Il apparaît, à mon sens, comme la solution de dernier recours. C'est-à-dire que je pense que DSK ne se pliera pas aux primaires. Je pense que le Parti Socialiste va faire des primaires. Alors, j'ai vu qu'ils se battent pour savoir si ce sera en juin ou en septembre 2011, peu importe. Mais ces primaires auront pour but de désigner non pas le meilleur, mais le moins mauvais. Et quand les sondeurs vont comparer le moins mauvais des socialistes à celui qui sera en place pour nous et qui sera, je crois, Nicolas Sarkozy, on se rendra compte que malgré les difficultés qu'on aura traversées, malgré les 5 ans de crise ou les 4 ans de crise
vous êtes sûr qu'il va se représenter.
qu'on aura traversé, il n'y aura pas photo. Et à ce moment-là, le PS aura le recours de DSK. Voilà comment
vous,
je vois
vous
le scénario.
Vous avez le sentiment qu'il va se représenter, Nicolas
Alors moi,
Sarkozy
comme vous, j'ai douté de la capacité de Nicolas Sarkozy à se représenter
après les élections régionales.
Non, après les élections régionales, j'en ai douté parce que je vois que les gros dossiers que l'on a à traiter ne sont pas des dossiers qui vont lui permettre d'acquérir une meilleure popularité au sein de nos concitoyens. Aujourd'hui, vous le voyez, il remonte un petit peu, mais il est quand même en retrait de ce qui pourrait être. Mais il faut tout de même prendre conscience qu'on est en période de crise. C'est-à-dire à un moment où aucun des hommes politiques ne plaît à son électorat. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, il y a eu un changement de gouvernement. Regardez ce qui se passe en Espagne, si demain il vote Zapatero, qui est un homme courageux. Moi, je le reconnais, qui est un homme courageux.
En Allemagne aussi, Merkel se retrouve en minorité au bout d'Ostrat.
Et Merkel a été mise en difficulté. C'est normal. Les citoyens réagissent contre. Ils ne réagissent pas en prenant... En analysant les difficultés dans lesquelles se trouve le pays ou l'Europe, ils réagissent en analysant leurs propres difficultés.
Je
ne les blâme pas.
J'ai l'impression que Nicolas Sarkozy ressemble de près à Gorbatchev en son temps et qu'il est un peu gorbatchevisé. C'est-à-dire quelqu'un qui a un charisme à l'extérieur, comme il y a eu une Gorbimania à l'époque, et qui a une détestation à l'intérieur. Parce que quand on a 30% de cote de popularité, ça veut dire qu'on a 70% de gens qui sont contre.
Gorbatchev a fait la perestroïka et a permis, de mettre fin à la guerre froide. Moi, je dis chapeau. Parfois, il y a des attitudes qu'il faut avoir, qui sont des attitudes courageuses et qui ne plaisent pas au pays et à l'électorat. Et moi, je vais vous dire une chose qui est encore plus importante que ça. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a des conditions exceptionnelles pour réformer le pays. Et je pense que c'est lui qui va décider. Mais s'il va au fond de sa logique, au fond des réformes qui sont nécessaires, parce qu'on n'est pas sorti de la crise, et contrairement à ce que beaucoup n'imaginent pas, on peut être rattrapé par ce qui se passe en Grèce ou par ce qui se passe en Espagne, parce que personne n'est à l'abri. Alors on nous dit...
ça c'est Barouin qui nous a fait
Non, c'est pas Barouin.
Pour savoir si on allait continuer à avoir la cote de
3-1. C'est pas Barouin qui nous a fait un petit délire.
Ou si on aurait 2-1.
C'est qu'aujourd'hui,
il est en train de nous hispaniser, de nous héléniser, de nous méditerraniser.
Aujourd'hui, pour rembourser les emprunts de la dette française, il faut 50 milliards d'euros. C'est-à-dire les impôts... C'est rien, mais c'est-à-dire ce sont les impôts que paient les Français sur le revenu. C'est-à-dire que sinon on n'avait pas de dette, on pourrait avoir un pays sans impôts, sans fiscalité directe sur le revenu. C'est énorme.
Mais
pour rembourser les intérêts de la dette, si demain les taux d'intérêt doublent, on va être dans une difficulté extraordinaire parce qu'on ne sera pas en situation de rembourser. Et ça peut se produire. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, faisons un effort. Nous, les parlementaires... Nous, les responsables politiques, les ministres, y compris le président de la République, nous devons donner l'exemple. Nous devons montrer qu'aujourd'hui, chacun doit faire un effort.
Mais ça, c'est le reniement de nos politiques qui existent déjà depuis 2 ou 3 ans.
Mais non, ce n'est pas le reniement. C'est l'adaptation à une situation exceptionnelle. On est dans une crise exceptionnelle. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé.
C'est depuis 1973 que tous les gouvernements nous disent qu'on est en crise.
C'est justement pour ça que toutes les mesures qui ont été prises depuis... Avant même, y compris la venue de l'élection de Nicolas Sarkozy, quand Copé, par exemple, Non, y compris, non, c'est pas copié. C'est Sarkozy, lorsqu'il était ministre des Finances, exonère la taxation des plus-values sur les ventes des filiales qui ont coûté quand même, sur deux ans, entre 2008 et 2009, 23 et 25 milliards d'euros. Ça représente, rien que ça, ça représente 50% de la dette dont on parle. Lorsqu'on met en place...
c'est pas la dette, c'est les intérêts de la dette. Vous ne mesurez pas la différence qu'il y a entre les deux.
Ça représente quand même 25 millions d'euros. Lorsqu'on met en place une mesure qui est controversée par rapport à l'abaissement de la TVA au niveau de la restauration, sur laquelle, y compris d'après les experts, moi je ne suis pas un expert, mais les experts émettent des doutes, où ça a coûté 3 milliards. Lorsqu'il y a encore une mesure sur les heures supplémentaires. Ou effectivement la mesure sur le fameux bouclier fiscal.
Ah, justement.
Donc il y a des tas de mesures qui effectivement pouvaient avoir leur sens il y a quelques années en arrière, mais qui justement n'ont plus cours aujourd'hui, mais sur lesquelles on ne revient pas.
Et pour ajouter, gouverner c'est prévoir. Et en l'occurrence, à Nicolas Sarkozy, il a quand même eu faux. Travailler plus pour gagner plus, ce bouclier fiscal.
Exactement. La politique de Nicolas Sarkozy qui lui a valu un plébiscite. Parce qu'il faut bien le reconnaître, il a été plébiscité. On sortait d'un gouvernement de droite, il a fait plus de 53% en sortant d'un gouvernement de droite, ce qui est un plébiscite. Ce qui veut dire que si on avait eu un gouvernement de gauche avant, Sarkozy aurait été élu avec 57 ou 58%. C'est la réalité, ça. Eh bien, ce plébiscite s'est traduit par des mesures en faveur de l'activité. Augmenter l'activité, permettre aux gens qui veulent travailler. Et ce qu'il avait promis et qu'il n'a pas pu faire parce qu'il y a une technostructure qui est paralysante dans notre pays, c'est libérer les énergies, faire en sorte que quand quelqu'un veut entreprendre, que quand quelqu'un veut réaliser un projet, il puisse le faire sans avoir des entraves.
Aujourd'hui,
on est encore entravé. Bien, moi, je le dis. Aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle.
Dans le même temps, aujourd'hui, il parle de régulation.
Non,
c'était pas dans sa bouche il y a quelques années.
Régulation vis-à-vis des banques, vis-à-vis du capitalisme international.
On a donné des sous aux banques sans rentrer dans le capital.
Alléger l'administration française. Je vous le répète, moi je sors d'une réunion en préfecture où on se rend compte à chaque réunion, vous avez 30 ou 50 personnes autour d'une table pour ne prendre aucune décision. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place un système de garde-fous partout qui fait que rien ne se passe.
C'est pour ça qu'on l'aime, Jacques Domergue.
C'est la raison pour laquelle...
Il sort d'une réunion avec l'État. Et puis il nous dit, t'as l'État, il y a trop d'État. Encore un peu, il prendrait une suppression
mais
de
moi,
l'État.
Je dis, mais non, mais je dis l'État,
de,
je veux, je de veux
libéral,
l'État.
Il lui manque un petit chouïa pour
de je veux l'État sur les fonctions régaliennes, pas sur l'activité au quotidien des Français ou sur l'activité économique des Français. On emmerde tout le monde à chaque coin de rue, mais on n'est pas capable de faire la police. C'est ça la réalité.
L'État pour commander et punir. Mais commander et punir, Nicolas Sarkozy, il était ministre de l'Intérieur pendant X années, et donc il a fait en charge. Justement, une des fonctions régaliennes majeures, le moins qu'on puisse dire, c'est
mais regardez la liberté qui reste à la police nationale. Moi, je vous dis, il faut être courageux aujourd'hui pour être flic. Parce qu'aujourd'hui, ils sont entravés. Et vous avez une justice qui n'applique souvent pas les peines qui devraient être appliquées. Aujourd'hui, c'est souvent la victime qui est priorisée l'agresseur qui est priorisé sur la victime. On a un monde qui marche à l'envers. Et moi, quand il y a des choses comme ça, je le dis clairement.
Est-ce que, justement, on parle de ça. Vous pensez que c'est bien, effectivement, de diminuer le nombre de policiers pour faire des transferts sur de la police municipale où les gens, effectivement, ils n'ont ni les compétences, ni, effectivement, légalement, les moyens de faire leur métier, comparativement à des policiers.
Non, moi, je dis que globalement...
Il y a quelque chose qui ne va pas, là.
Globalement, diminuer le nombre de fonctionnaires, c'est une bonne chose. On est le seul pays qui ait 5 millions de fonctionnaires. C'est beaucoup trop dans notre pays. Par contre... on a besoin de fonctionnaires. Et moi, je suis fonctionnaire puisque je travaille dans les hôpitaux. Donc, je sais ce que c'est. Il y a des secteurs d'activité où il faut être prioritaire et où il faut renforcer les effectifs. C'est le cas de la santé, c'est le cas de la sécurité. Les fonctions régaliennes de l'État.
C'est pas le cas de la police. La santé, c'est pas une des fonctions régaliennes. C'est le cas de la justice.
Il y a des secteurs dans lesquels... Mais sur la santé, on ne manque pas d'effectifs. Sur la santé, c'est un problème d'organisation et un problème de dépenses et de gabegie de certains secteurs, y compris dans l'attitude de nos concitoyens qui, parfois, ne sont pas tout à fait raisonnables. Donc, je crois que là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais à côté de cela, ne me dites pas aujourd'hui. Écoute, on continue à avoir une déclaration d'impôt qui maintenant est préétablie. Donc c'est une bonne chose. Mais on est un des rares pays à ne pas avoir de prélèvement à la source. Je veux dire, on pourrait aujourd'hui, cette énorme machine, cet énorme bâtiment, ce grand bateau de Bercy, on pourrait le vider à moitié de tous les fonctionnaires qui sont à l'intérieur. Et comme cela, à foison, que ce soit toutes les directions, les directions administratives, vous le voyez, on a donné des responsabilités aux régions. Et malgré ce,
c'est issu de la Révolution française. Mais c'est la Révolution française.
Il faut aujourd'hui aller vers un système beaucoup plus souple.
L'impôt sur le revenu est un acte volontaire
des
citoyens. Et c'est pour ça qu'on ne prélève pas à la source. On n'est pas allemand. On ne marche pas avec le bruit de bottes. Donc justement, c'est un acte volontaire du citoyen.
Il faut de l'efficacité de l'administration. Non, c'est plus volontaire, puisqu'aujourd'hui, vous avez votre déclaration qui est préétablie.
C'est vrai
que tous les salariés ont leur déclaration préétablie.
Ah, justement, ça fait partie aussi des directives de l'Europe. Bon, et pourquoi pas? Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne à propos de l'Europe, et puis au sens plus large, de l'euro. Alors, on entend là, depuis 2 mois ou 3 mois, c'est une catastrophe, l'euro s'effondre, jusqu'où on va aller, bref, il faudrait même sortir de l'euro, etc. Alors que tout le monde sait que la vraie parité de l'euro est entre 0,88 et 1,07. 1,23, c'est même encore trop cher.
Oui, oui.
Donc, vous êtes aussi favorable à un euro?
Moi, je trouve que l'euro aujourd'hui...
Voire un euro faible.
Ah, tiens, je ne suis pas pour un euro faible.
Mais voilà, ce sera en dessous de 0,88.
Je pense que...
On en est loin.
Je pense que l'euro, au point où il en est actuellement, et en baissant un petit peu, serait à un taux qui conviendrait à l'activité de l'Europe. Il faut bien voir que, d'un côté... Surtout quand vous achetez des matières premières, vous les payez en dollars. Donc, si vous avez un euro qui est fort, ça vous avantage. Si vous avez un euro qui est faible, ça vous coûte cher. Mais en contrepartie, aujourd'hui, quel est le problème de l'Europe? Quel est le problème de la France? C'est la sous-activité, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, on le voit, il y a de la sous-activité partout. On délocalise dans beaucoup de secteurs. Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est voir ce qu'on vient de voir cette semaine. C'est que le Renault Trafic va être offert à Sandrouville. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va... relocaliser des activités dans notre pays et qu'on va redonner du
travail. Le Renault Trafic, il était fait
ça,
en Europe.
Il était fait en Europe, mais il n'était pas fait chez nous.
Je pense que
comme ça, on va redonner de la compétitivité à nos exportations, on va redynamiser les exportations. Aujourd'hui, on vend des Airbus avec beaucoup plus de difficultés que des Boeing parce que l'euro était trop cher. Vous allez voir que ça va donner un coup de pouce à l'activité industrielle française.
Vous savez,
ne peut pas désindustrialiser définitivement la France. Non, moi, je pense que c'est une erreur.
C'est un sentiment que je partage. Maintenant, il y a une chose quand même, c'est que les économies sur la zone euro ne sont rien comparables. Lorsqu'il y a l'Allemagne qui a une balance
du commerce extérieur,
du commerce extérieur qui est excédentaire. À partir de ce moment-là, un euro, à la limite, favoriser ses exportations, c'est un plus. Mais ce qui nous concerne, lorsque nous sommes déficitaires, ça veut dire qu'un euro faible, ça veut dire payer le pétrole plus cher, ça veut dire faire rentrer les marchandises chez nous plus cher. Or, à ce jour, c'est comme ça. Et quand on regarde même, y compris, comment la France vend à l'étranger, on vend essentiellement dans la zone euro. Notre premier client, c'est l'Allemagne.
Bien sûr.
Donc, à la limite... Que l'euro soit à 1, à 2, à 3, à 4 ou à 1,5 ou tout ce que vous voudrez, ça ne change rien au problème.
Mais excusez-moi, mais l'activité aujourd'hui, l'activité et les marchés, ils ne sont plus en Europe. Il ne faut pas se leurrer. Moi, j'arrive de Chine. J'ai passé 15 jours en Chine il y a un peu plus d'un mois. C'est là-bas que ça se passe.
Vous étiez allé avant Mme Le Maire?
Oui, un peu avant.
Vous n'avez pas invité sur ce coup-là?
Non, je n'ai pas été invité, mais ça, on va lui demander combien ça nous a coûté à nous, Montpelliérains, ce voyage.
On pourrait vous demander combien ça a coûté.
C'était à mes frais personnels.
Donc ça n'a rien à voir. C'est un petit voyage d'agrément, alors.
c'est un voyage avec une équipe médicale. Donc ça n'a rien à voir avec. Je n'étais pas subventionné. Donc, tandis que je pense que la mairie a subventionné.
Malgré que vous soyez fonctionnaire d'État en tant que médecin.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Revenons à l'euro.
L'euro,
il faut qu'il soit à sa juste valeur. Si on a un euro à 0,80...
À l'Allemagne, à la France, à l'Espagne, il profite à qui, l'euro, aujourd'hui?
Mais il profite à la stabilité du bloc européen, de la zone euro. Heureusement qu'il y a l'euro, sinon on aurait déjà dévalué depuis belle lurette. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des marchés en dehors, qu'on redynamise les marchés au niveau européen, c'est une bonne chose, mais surtout qu'on soit capable de trouver des marchés en dehors. Je vous dis, en Chine, sur les 1 500 milliards ou 300, 400 milliards d'individus qui est là-bas, vous avez un potentiel de 300 millions de personnes qui peuvent s'acheter des voitures, qui peuvent s'acheter des téléphones portables,
près de 400 millions.
Près de 400 millions. Eh bien, vous voyez,
quand on a de l'argent à l'industrie automobile.
Mais vous ne voyez pas une seule voiture française, alors que vous voyez beaucoup de voitures allemandes. Posez-vous la question, pourquoi ?
La plaisanterie de M. Kissinger à propos de l'Europe, et qui disait, l'Europe, quel numéro de téléphone ? C'est vrai que c'est un vrai bazar, l'Europe.
Bien sûr.
Qui préside l'Union européenne ? M. Van Rompuy ? M. Barroso ? M. Zapatero, qui est l'actuel président tournant de la chose, c'est un véritable bazar. Alors, est-ce que vous êtes pour une Europe fédérale avec un président, un vrai président, et un gouvernement économique, monétaire de l'Union, ou pas ?
Moi, j'avoue que j'étais très européen. Lors du référendum de 2005, j'étais pro-européen et j'ai vu la frilosité, la réticence des peuples qui se sont élevés contre ce référendum. C'est vrai que quand on regarde les directives européennes, quand on a vu la Constitution européenne telle qu'elles ont été écrites, eh bien, il y avait de quoi rebuter beaucoup de nos concitoyens. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été exprimé par les votes.
Mais aujourd'hui, on voit
malheureusement que l'Europe aujourd'hui est en pleine difficulté parce qu'elle a des difficultés monétaires. Elle est très administrée, elle est très frileuse, elle n'a pas de tête identifiable. Vous parlez de Kissinger et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Elle n'est pas identifiable. Elle a un président qui a été choisi, qui est le plus transparent des hommes. Je ne lui veux pas de mal. Je veux dire, on n'aurait pas pris... Il a une tête de haut fonctionnaire, pas plus.
Et puis on se fout du monde. Angela Merkel
C'est vrai qu'en période de crise, on est un peu plus frileux.
Mais quand Angela Merkel a pris la décision, il y a une semaine, de s'attaquer aux spéculateurs. Et où, en France, je ne veux pas dire Nicolas Sarkozy, mais en France, les journalistes, les médias, les politiques ont dit oh, « on n'était pas au courant ». C'est quand même totalement faux. Depuis le traité de l'Élysée 2 du 21 janvier 2003, il y a un ministre allemand qui siège en permanence au gouvernement français et un ministre français qui siège en permanence au gouvernement allemand. Donc en l'occurrence, aucune décision ne peut se prendre en France ou en Allemagne sans que l'un des deux partenaires ne soit au courant.
Vous parlez du poste d'en rêve Jack Lang ?
Le poste d'en rêve Jack Lang, effectivement.
Oui, c'est ça.
Ouais, tout à fait. Et qu'il n'y a toujours pas. En l'occurrence, c'est absolument impossible que l'Allemagne fasse quelque chose sans qu'on soit au courant, et réciproquement. Donc quand la totalité de la classe politique, la totalité de la classe médiatique a dit oh, « on n'était pas au courant de ce qu'a fait Angela Merkel », on se fout du monde, on était parfaitement au courant. Non, en l'occurrence, il n'y a pas une seule voix qui parle au nom de l'Europe, il y a 36 voix.
Il y a trop d'intérêts particuliers en Europe, c'est ça le problème. Voilà, on est encore très nationaliste, si j'ose dire, par rapport aux intérêts qu'il faudrait. Je crois que, vous savez, on a mis pratiquement 50 ans entre le moment où on a décidé de faire une Europe économique et puis une Europe monétaire. Tout le rêve de tout Européen, c'est de faire un jour une Europe sociale. On en est loin. J'étais vendredi dernier à une réunion sur la santé où on parlait de l'Europe de la santé. On en est loin aussi.
Vous avez entièrement raison. Je pense que c'est le dernier souci.
Et la liberté des citoyens.
De nos gouvernants respectifs de faire une Europe sociale.
Non, c'est que c'est le plus difficile à faire.
Non, c'est qu'ils ne veulent pas.
Vous avez un tel écart entre les pays que le juste équilibre est difficile à trouver.
Ça peut se faire quand même au niveau de la zone euro. Voilà. Au niveau de la zone euro, il y a quand même quelque part, dans la mesure où nous sommes liés, vous avez entièrement raison, même s'il y a des intérêts contradictoires entre l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, ou quoi que ce soit, ou la Grèce, nous sommes quand même liés par une monnaie. Mais il n'y a pas cette volonté. Cette volonté n'existe pas. La volonté, c'est simplement de satisfaire le milieu économique. Point barre. Mais l'Europe sociale, et c'est peut-être ce qui manque à l'Europe, c'est cette dimension sociale pour que les gens puissent s'identifier, avoir le sentiment quand même de quelque part de participer à quelque chose.
Juste une petite réponse et puis on va finir avec ce premier débat. Ouais. Une petite réponse par rapport à ce qu'il vient de dire.
Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais en contrario, je dis c'est très difficile. Vous avez vu les prouesses qu'on a réalisées pour faire une Europe monétaire. C'est déjà une bonne chose parce que quand on a appuyé sur le bouton pour dire on ne compte plus en francs, on compte en euros, ça a marché. Mais pour faire une Europe sociale, c'est beaucoup plus difficile. Je vous le répète, même à l'intérieur de la zone euro, les écarts entre les pays sur le plan social sont considérables. Et vous ne rattrapez pas des niveaux, que ce soit au niveau du SMIC, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau des retraites.
C'est
vous ne rattrapez pas un différentiel aussi important.
Alors, je suis d'accord avec
c'est
vous.
C'est dur.
De Bruxelles à Montpellier, un petit coup de TGV, là, vite fait, on va retomber dans notre douce France pour notre deuxième petit débat. Avant qu'on passe à notre deuxième débat, quatre petites notes de musique apportées encore par Jacques Domergue. Alors, vous nous avez apporté quoi comme deuxième morceau ? C'est toujours du confidentiel ou...
Non.
Alors c'est quoi, c'est quoi,
ça, c'est quoi? On est à l'heure de l'apéro, donc c'est le dîner de Benabar.
Alors, juste avant que le morceau débat, la semaine dernière, nous avions Arnaud Julien comme invité, qui nous a dit, excusez-moi de vous apporter une musique de merde, parce que je ne suis pas vraiment fanat.
Cette semaine,
c'est Jacques Domergue qui, lui, faute de nous apporter une musique de merde, nous a apporté le vin de merde.
Ce qui est beaucoup mieux.
Et qui, d'ailleurs, c'est l'appellation. Donc, pour nos auditeurs, si vous ne connaissez pas ce vin, eh bien, écoutez, renseignez-vous, le vin de merde, c'est un vin qui vient évidemment d'ici, au niveau Languedoc. Le sous-titre s'appelle même Le pire cache le meilleur. Et c'est vrai que c'est le vin des philosophes, enfin, du moins, c'est en tout cas celui qui le fait, qui
il
le dit.
Il est prédestiné pour venir
ici. Il est prédestiné pour l'émission. Alors maintenant, un petit morceau de Benabar.
Sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous le bras. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout. Je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous le bras. On commandera des pizzas à bord.
Retour dans nos studios Divergence avec Jacques Domergue, notre invité. Je vous rappelle, Jacques Domergue, l'homme qui a vu le président. Alors là, on va le faire comme Anne Sinclair sur 7 sur 7 pour savoir si Jacques Delors allait se déclarer président de la République. On en parlera uniquement à la fin de l'émission. Là, on va discuter un petit peu de la vie quotidienne à Montpellier au temps de Hélène Mandroux. Alors, c'est la cinquième émission qu'on fait un petit peu sur ce thème-là. Pourquoi ? Parce que le camarade Philippe Sorel a déclaré « Je suis candidat à la mairie ». On dit « Putain, il n'y a pas des élections ». C'est quand ? Là-dessus, Patrick Vignal a dit « Moi aussi ». Là-dessus, Michael Delafosse a dit « Moi aussi ». Là-dessus, on a invité Arnaud Julien, puis on lui a dit « Et toi ?»« Moi non, je vois plutôt d'autres choses ». Et bien évidemment, on invite obligatoirement Jacques Domergue.
Ah, moi, j'ai été candidat, donc
je ne
pourrais pas vous dire que je ne suis pas concerné. Aujourd'hui, je gère l'opposition municipale. Bon, ce n'est pas très facile parce que la municipalité ne gère plus rien. C'est la difficulté que l'on rencontre, ce n'est pas tellement dans le combat avec Hélène Mandrou ou son équipe, qui est un combat plutôt feutré. Hein. C'est une dame qui est charmante, qui n'a pas beaucoup d'idées de projets pour la ville.
Alors on reconnaît le côté corporatiste de Jacques Dauberghe, parce que Hélène Mandrou, médecin, donc.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est sa nature. Moi, je n'ai jamais dit quelque chose de mal sur Hélène Mandrou. Je dis simplement.
Et son ami Navarro, c'est un pote à vous ?
Ah, c'est mon patron maintenant.
Ah, c'est carrément votre patron. Ah, c'est mon patron. Donc, en fait, c'est pour ça que vous ne dites pas pour trop de.
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais attendez, je crois que là, on a divagué dans tout ce que j'ai entendu. Je pense que ça, c'est du domaine privé. Il ne faut pas en parler.
Non. Ce qui est du domaine privé, effectivement, on n'en parle pas. Quand le domaine privé rentre dans le public, ça, c'est comme quand Nicolas Sarkozy divorce, se remarie avec Carla.
Que je sache, il n'y a rien eu entre eux de particulier. Donc, c'est la presse qui a sûrement extrapolé à partir de choses qui me paraissent totalement.
C'est parce que vous n'êtes pas invité.
Non, pas du tout.
De toute façon.
Je suis pas mal placé pour avoir des informations.
Non, mais à la limite, pratiquement.
On peut revenir sur les relations que nous avons au conseil municipal.
Pourquoi vous dites que la municipalité ne gère pas ?
Mais parce qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez que aucune grande décision n'est prise à la mairie. Elles sont toutes prises en conseil d'agglomération. C'est ça que je veux que vous compreniez.
Ah oui, non, mais
et
ça,
nous,
ça,
en
ça,
tant qu'opposants.
Ça, c'est le rôle des agglos.
Est-ce que c'est le fait de.
C'est le rôle des agglos, ça.
Est-ce que c'est le fait de Mme Mandrou ou est-ce que c'est le fait de la réalité.
C'est le fait que Mme Mandrou n'est pas présidente de l'agglo. Ça,
non,
c'est clair.
C'est le fait que Frèche, quand il est parti de la mairie, il a transféré toutes les compétences à l'agglo. Si vous prenez une ville comme Toulouse, qui est une communauté urbaine, Toulouse n'a pas transféré toutes les compétences à l'agglo. Par exemple, le sport, par exemple, les spectacles, tout ça, c'est. Et la culture, c'est du domaine de la mairie. C'est la mairie qui a les plus grosses prérogatives que l'activité économique,
les infrastructures. Miguel de la Fosse.
Je dis simplement, c'est un état de fait.
Montpellier a disparu au profit de l'agglo.
Montpellier a disparu au profit de l'agglo. C'est une réalité.
Non, mais c'est presque une bonne nouvelle.
Mais regardez.
Sans parler d'Hélène Mandrou.
Je dis pas que c'est.
Est-ce que c'est pas une volonté du président de la République?
Je dis pas que c'est une mauvaise nouvelle. Je dis c'est la réalité. Donc moi, comme je suis élu qu'à la mairie et que l'opposition n'est pas représentée au conseil d'agglomération, je n'ai pas à me prononcer sur les dossiers de l'agglomération. Et je vais vous dire plus, ces derniers mois, on a encore transféré certaines activités à l'agglomération, comme par exemple l'eau, la gestion de l'eau a été transférée, que sais-je d'autre. Tous les gros dossiers qui restent, il en reste très peu. Ce qui reste à la mairie aujourd'hui, ce sont les permis de construire. Et ça va disparaître le jour où Montpellier passera en métropole, parce que ça va se faire. Mais à ce moment-là, le maire de la ville centre sera également président de la métropole et on mettra fin au règne de Frèche.
Parce que les permis de construire.
Qui, je le reconnais, n'a pas eu que de mauvaises idées pour la ville de Montpellier. Donc vous voyez que je suis quand même objectif.
Les permis de construire, ils appartiennent toujours aux municipalités.
C'est toujours la mairie, oui. Sauf dans les communautés urbaines. Ça, ouais. Dans les communautés urbaines, c'est la communauté qui les a.
Mais ça, c'est la loi, quoi.
C'est la loi.
Je voudrais qu'on revienne sur votre militantisme. Parce que, bon, on a eu Sorel, encore une fois, Vignal, De La Fosse. Ils ont des blogs au niveau internet, des trucs, on sait tout sur eux depuis qu'ils sont tout petits, etc. En ce qui vous concerne, quand on regarde au niveau internet, il n'y a pas grand-chose. Vous êtes vraiment de la génération 53.
Ah, moi, je suis sur Facebook.
L'informatique, vous avez dû être chiraquien. Vous avez dû confondre pendant longtemps la souris avec le mulot.
J'ai 2500 ou 3000 amis, je crois. Oui, je suis sur Facebook.
Vous n'étiez pas à l'apéro.
J'étais pas à l'apéro parce que je n'étais pas là. Et figurez-vous que si j'avais été là, j'y serais allé. J'y serais allé plus par curiosité que pour me rendre compte si oui ou non il fallait maintenir ce genre de manifestation. Mais j'aurais retrouvé des gens que je connais, c'est évident. Vous savez, maintenant que je me balade à Montpellier, je commence à avoir une tête qui est connue. Maintenant, ce que je vais vous dire.
Vous êtes de la génération Facebook, mais là vous faites du jeunisme.
Je vais vous dire sur l'histoire de l'apéro. Bon, moi, je suis pas contre les regroupements par milliers de personnes qui ne se connaissent pas mais qui ont envie de se voir. Bon, je veux bien. Mais il faut pas que ça dégénère en beuverie géante. Je crois que c'est ça le fin mot. Et à mon sens, il faut pas interdire ces manifestations, il faut les réglementer, peut-être définir les lieux dans lesquels elles doivent se passer et surtout qu'il y ait un système de contrôle à l'entrée. Je veux dire, si tout le monde arrive avec des bouteilles d'alcool, ça va être un carnage chaque fois.
Quelle différence vous faites entre, par exemple, un apéro et
une
feria de Béziers ou une feria de Nîmes?
Oui, non, mais il y a un peu de ça. C'est pour ça que je vous dis, oui, mais c'est pas une
beuverie.
En un lieu précis. En un lieu précis.
Quand il sort de
les gens circulent dans les rues,
il y a de lui pendant deux jours, il ne boit plus un Ricard, le renard.
Ou une quelconque manifestation.
Une feria, bon, moi je ne suis pas.
Une quelconque fête. Hein,
non, mais attendez, une feria, c'est un tout. Quand vous allez à une feria, à Nîmes ou à Béziers, vous aimez.
Est-ce que vous
en général,
l'alcool,
en
par
général,
exemple, d'une
non,
feria.
Attendez, mais moi je ne me saoule pas la bourre pas la gueule chaque fois que vous allez à une feria. Par contre, je rencontre des gens, je vais à la corrida, je bois un coup, voilà. je mange avec des amis. C'est ça une feria, c'est une ambiance festive. Là, si les apéros géants finissent, il n'y a pas de feria, là, il n'y a pas de musique.
Si ça finit en
beuverie, la seule finalité c'est l'alcool, ouais, je pense que c'est une erreur. Alors, que j'ai fait voter un amendement lors de la loi Bachelot, en faveur de l'information pour la viticulture sur l'alcool, alors que je suis médecin, je dis, on a tout de même voté des textes pour interdire les beuveries et la vente d'alcool dangereuse pour les jeunes. C'est ça.
Alors, allons un petit peu plus loin au niveau de votre militantisme. Pourquoi vous êtes de droite? Vous n'aimez pas l'égalité, la fraternité, la solidarité? Ça vous plaît pas, ça?
Je vais vous dire
quelque chose. Vous n'aimez pas les pauvres,
Non.
Vous n'aimez pas les pauvres?
Mais moi, je suis issu d'une famille très
moderne. Ou alors, comme tout bon gâteau de droite, vous avez votre pauvre.
Écoutez, moi, je suis...
Vous voulez le garder pauvre?
Bon, vous ne voulez pas me laisser parler, donc vous ne saurez pas si je vais les pauvres. Non, moi, je vais vous dire. Je suis issu d'une famille modeste, avec un père qui était commerçant et qui a travaillé dur pour pouvoir m'élever. Je n'ai pas de frères et sœurs, donc tout a été mis sur moi. Le point d'honneur de ma famille était que je travaille bien à l'école, donc on faisait tout pour que je sois dans de bonnes conditions. Et je suis arrivé, j'ai fait une belle carrière médicale, universitaire, alors que je n'étais pas fils de patron. Donc vous voyez, et je n'ai pas épousé une fille de patron. Donc de ce côté-là...
Vous avez eu du pot, logiquement, si vous n'avez pas redoublé.
Je suis clair.
Vous êtes passé avant la première réforme au niveau PCEM à l'époque.
Maintenant, non, je suis passé au premier concours, moi.
Au premier concours?
Premier concours, oui. Maintenant, je vais vous dire, pourquoi je n'aime pas la gauche? C'est pas que je n'aime pas la gauche. Moi, vous savez, j'aime bien les communistes. Ah, je vais vous surprendre.
Vous avez été gaulliste, c'est normal que vous aimiez les communistes.
J'aime les communistes, pourquoi? Parce que je trouve que les communistes, ils vivent comme ils pensent. Et ça, pour moi, ça mérite le respect. Par contre...
Ils sont pleins de passion, comme Sarkozy.
Laissez-moi finir. Par contre, quand je vois cette gauche caviar...
Ils n'ont pas raison.
...qui se fait élire avec des voix de gauche, de gens souvent très modestes ou qui sont totalement incrédules...
Vous pensez
incrédules.
À DSK, vous pensez?
Non, je pense à tous ceux qui sont au conseil municipal et tous les autres
Parce que DSK, c'est un peu ça, quand même. Hein.
Mais DSK en fait partie, mais bien évidemment. Et que ces gens-là se font élire avec des voix de gauche et se comportent comme les pires. Regardez ce qui s'est passé avec Ségolène Royal et les deux anciennes parlementaires qu'elle avait. Elle est allée au Prud'homme. Pourquoi? Parce que ce sont les pires, ces gens-là. Eh bien, ça, je ne le respecte pas. Et c'est pour ça que moi, je préfère avoir des idées claires, nettes. Je dis, on ne partagera le gâteau qu'à partir du moment où on l'aura gagné, où on l'aura construit tous ensemble. Parce que la seule finalité, c'est de faire en sorte que ce gâteau augmente pour que chacun puisse en avoir une part entière et de manière tout à fait responsable.
C'est ça la réalité. Il vient de droite. Il faut d'abord que le gâteau augmente.
Voilà. Avant de le partager.
Si vous ne créez pas de gâteau, je veux dire, il n'y aura rien à partager. Si c'est pour partager la misère, ça ne sert à rien.
Vous militez.
En fin de compte, vous voulez bien donner une chemise à condition d'en avoir deux.
Pas du tout. Moi, je suis très généreux. Je suis très généreux et je n'ai pas de besoin. Vous voyez, je n'ai pas de besoin pour m'en parler en tant qu'individu. Je sais qu'il y en a qui achètent des montres. Regardez Julien Drey. Il y en a qui ont des passions pour les voitures. Je ne citerai pas de nom. Bon, donc, moi, ce n'est pas mon cas. Même les marques.
Le seul que je connais qui avait une passion pour les voitures, c'était Brejnev. On avait 40. Revenons à votre militantisme.
Non, mais lui, il n'était pas communiste.
Vous avez commencé quand au niveau militantisme?
Moi, je ne suis pas un militant de base.
Mais votre carte, vous l'avez pris quand?
J'ai pris ma carte fin 2001.
Ah oui, donc vraiment tardivement.
Oui, j'ai pris ma carte quand on m'a dit il faut que tu partes contre Fraîche. Voilà. Et donc j'ai dit...
C'est qui on?
C'était les responsables du RPR et de Démocratie libérale de l'époque.
Il y a Jacques est un pronom mal défini.
Jacques Blanc en tête.
Non défini et malhonnête.
Est venu me chercher. J'ai été bien accueilli par mon ami Christian Jean-Jean, vous voyez, qui à l'époque ne m'en voulait pas. J'ai été mal accueilli par Jean-Pierre Grand, donc ça commençait déjà depuis ce moment-là.
Comme quoi tout change.
Vous voyez, tout peut évoluer. Et je suis rentré en politique sans avoir aucune notion de ce qu'était une circonscription. ce que faisait un député.
Revenons-en à la mairie de Montpellier. Puis vous nous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, et j'ai senti comme un regret, presque une petite larme. Vous n'avez pas connu l'époque fraîche. C'est fraîche, maire de Montpellier, du moins en tant que conseiller municipal.
Je ne l'ai pas connu en tant qu'opposant.
Il y a comme une espèce de... l'idée d'un petit regret, quand
ah ben
même,
oui, parce
avec Fraîche au moyen combat, vous avez dit avec Hélène Mandrou, c'est même pas de la gestion, quoi.
Ah non, il n'y a pas de combat, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de combat.
Il n'y a pas de
c'est
combat,
très courtois.
Mais
non, je vous le répète, il y a la personnalité d'Hélène Mandrou qui fait qu'on n'a pas...
C'est qu'il n'y a pas de sujet d'opposition.
Il n'y a pas beaucoup d'opposition, voilà. Parce qu'il n'y a pas de vrai débat. Qu'est-ce qu'on fait? On vote des subventions, on vote des permis de construire
et les dossiers avancent, parce que vous, en tant que député, on l'a vu en tant que député, vous êtes intervenu, je veux dire, au niveau de... à Paris, pour l'autoroute A9, pour le AI, du moins la... la refonte de l'OAI, pour le parking du Pérou, etc. Enfin, après, on peut être d'accord ou pas avec ce que vous faites. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites des choses. Et elle vous suit sur ce coup-là, parce qu'on a appris que, visiblement, au début de l'été, il semblerait que Frédéric Mitterrand pourrait venir sur Montpellier à propos du parking du Pérou,
etc. Le 2
juillet,
il viendra, oui.
Bon, je vais dire... Presque peu importe qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Mais
Pas peu importe qu'ils viennent ou pas. Promis qu'ils viendraient le 2 juillet. Moi, je vais vous dire, s'ils ne viennent pas le 2 juillet, j'irai le chercher.
Par rapport au parking du Pérou, oui. Qui est une vieille histoire.
Oh, c'est une vieille histoire.
Alors, au moins 10 ans, si ce n'est pas plus.
Vous savez, c'est une vieille histoire.
Mais Hélène Mandrou, là, vous avez l'oreille de Hélène Mandrou.
Oui.
Ou parce que vous êtes dans l'opposition, donc puisque c'est l'opposition qui le propose, donc niet, on fera
barrage. Non, attendez. J'ai pris attache avec la municipalité.
C'est-à-dire avec Mandrou,
avec les responsables. Responsable de l'urbanisme.
De l'urbanisme, c'est-à-dire avec Sorel, alors.
Avec Sorel, c'est pour savoir si le dossier était toujours d'actualité. Et d'ailleurs, Philippe Sorel et Hélène Mandrou s'étaient prononcés en faveur du parking du Pérou. Et donc, j'ai relancé ce projet parce que, si vous voulez, la relance de ce projet n'était pas isolée, il faut bien le voir. Elle faisait partie d'un tout avec un projet de réaménagement de la circulation à Montpellier.
Oui,
et
puis transport en commun, etc.
Transport en commun, transport routier, parce que ça a été totalement laissé à l'abandon. Et aujourd'hui, vous le voyez, on ne peut plus se déplacé dans Montpellier.
Et
je me suis prononcé. J'ai dit le lien, tant qu'il sera à deux fois une voie avec des ronds-points, et il n'y a pas de feu, mais il y a des ronds-points, ça ne marchera pas. Le lien, pour moi, ça doit être l'équivalent
du tracé du lien, il vous plaît, le tracé du lien?
J'ai pas décidé si oui, il me plaît ou pas. Le
Parce qu'il passe juste en bas de la coule, là, à Grabelle.
À mon sens,
il est... visiblement, il y a un problème. Du moins, il y a quelques opposants de votre camp.
Il y en aura partout, des opposants. Vous savez, dès que vous construisez une infrastructure...
est-ce qu'il serait un opposant de mauvaise foi?
Je ne sais pas. Si,
qui c'est Thierry, qui vous parlez
un habitant de la Goule.
Le seul sarkozien de Gravel.
Le seul.
Le plus grand sarkozien de Gravel.
Oui, le sarkozien devant l'éternel. Ouais. Thierry, qui fut promoteur... qui est un grand opposant
vous aurez toujours des oppositions. Ça m'étonne qu'il le fasse au pied de comment il s'appelle
de la Goule
parce que c'est accidenté là. Ça m'étonne qu'il le fasse là. Moi, je pensais que le lien, il passait à Bel Air et il passait donc derrière.
Il passe à Bel Air, oui.
Il passe derrière.
Il passe pas au pied. Il passe derrière. Ça m'étonne.
Ah, c'est ça.
Oui. Non, mais le lien.
Il faudra toujours des
mécontents, c'est inévitable, surtout dans une zone qui est un peu urbanisée.
Soit, d'ailleurs,
il faut que ce soit une route à deux fois deux voies avec des passages en pont ou en dessus-dessous, en tunnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de ralentissement de la circulation. On peut rouler à 50, à 70 ou à 90, peu importe, à une condition, c'est qu'il n'y a pas d'interruption des flux.
En continu.
C'est de la mécanique. Vous savez, moi je suis chirurgien, en chirurgie vasculaire, quand vous avez un vaisseau où ça s'interrompt, ça se bouche. Eh bien, c'est pareil pour la circulation.
À qui le dites-vous? Une dernière question.
Ça, c'est la cigarette.
Une dernière question. Quelles sont vos relations avec le cabinet noir de la mairie? Assaf, Zankiel, au jambon.
Moi, je ne sais pas ce que c'est le cabinet noir de la mairie.
Non, mais je vous le dis, je vous les cite. Assaf,
Zankiel, en noir.
Jambon.
Non, mais on la perd
en noir. Et Navarro.
Je ne sais plus s'il est noir ou s'il n'est pas noir.
Parce qu'il est dérangé, c'est tout, mais il n'est pas.
Mais vous arrangez un peu, non?
Non, mais vous savez. Non, si vous faites allusion aux élections régionales, je pense que la gauche s'y est très mal pris pour battre fraîche. Là, c'est sûr que...
La gauche s'y est mal pris pour battre fraîche. Pourquoi?
Ils ont eu tout faux.
Fraîche est de droite. La gauche, il est mal pris pour être Fraîche.
Fraîche, il est né de droite, il est de gauche, c'est un populiste. C'est, moi, j'ai toujours dit, c'est un Le Pen.
Enfin, c'est pas tellement la gauche qui a été battue quand même, au régional.
Ah oui,
c'est surtout
la droite a été battue.
Dans la définition que vous donnez, il est presque jobertiste quand Michel Jobert disait « Je suis ni de droite ni de gauche, je suis d'ailleurs ».
Ouais, c'est un peu ça. Lui, il n'est pas d'ailleurs. Lui, il est populiste et il est très fort de ce côté-là, je le reconnais. Même si ce n'est pas ma façon de penser, il faut bien reconnaître de temps en temps les choses.
Un dernier petit morceau de musique pour
on
passer.
On n'a pas parlé du président.
Bon, justement, petit morceau de musique avant qu'on en passe au président. C'est quoi le dernier petit morceau de musique?
Ah mais je sais pas. Il m'a pas.
Attendez, dernier secret. Ah non, il y a pas.
Eh ben j'ai pas artiste.
Ah alors là, il est. C'est pas pareil.
Je vais vous mettre du Brel comme ça. Voilà, un peu de gaieté.
Un petit morceau de Renaud qui n'a pas été choisi là par Jacques Domer.
Le Renaud ne boit que de l'eau, le renard car Bureau Ricard, un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ni tout beau, moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renaud, Mister Renard. Renard est un sacré soifard, Renaud est sobre comme un moineau. Quand Renaud rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renaud se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud s'efforce et son boulot d'écrire de jolies histoires. Pour séduire les gens, les marmots, pour amuser, pour émouvoir. À la pointe de son stylo, le renard n'a que les gros mots. La parano et le cafard lui inspirent que des idées noires. Docteur Renaud, Mister Renard. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare. Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires. Renard désabusé se marre, se contrefou de ce bazar. Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plus tôt. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud a choisi la guitare et la poésie et les mots comme des armes un peu dérisoires pour fustiger tous les blaireaux. Renard, c'est son côté anard, crache sur tous les idéaux, se moque du tiers comme une carte des engagements les plus beaux. Docteur Renaud, Mister Renard. Renaud mérite les bravos, car en amour, et c'est sa gloire, il est tendre comme un agneau, pour une seule et même histoire. Renard se frotte à toutes les peaux, n'a que des aventures d'un soir. Avec des canons, des cajots, Renard serait-il un brin d'islam? Docteur Renaud, Mister Renard. Docteur Renaud. C'est à cause du désespoir qui tombe à 50 ans bientôt que le renard, tôt ou tard, prendra le dessus sur Renaud. Aujourd'hui, son amour se barre, son bel amour, sa domino. Elle quitte le vilain renard, mais aimera toujours Renaud.
Docteur Renaud, Mister Renard, Ça, c'est Jacques Domergue. Jacques Domergue, le Sarkozien qui s'est permis de critiquer Nicolas Sarkozy. Alors là, quand Jacques Domergue se rebiffe, mais quelle mouche vous a piqué au lendemain des élections régionales ? Enfin, tout d'un coup, vous vous mettez à critiquer votre président. Non, mais, oula, il fallait qu'il y ait quand même quelque chose, que vous ayez quelque chose sur le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est vrai que ça faisait quelques semaines que j'en avais, comme on dit chez nous, gros sur la patate. Et quand j'ai vu le soir du premier tour, tous les ministres qui parlaient de concert, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas eu un mot d'ordre qui soit donné.
Comme d'habitude, dire, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent.
Exactement. Ah, dire « Dimanche, il ne s'est rien passé ». C'est pas une élection nationale, c'est pas un signal contre le président. Non, vous verrez dimanche prochain, on est à la mi-temps, voilà le terme qui était consacré. On est à la mi-temps, le match n'est pas fini, on va gagner la deuxième mi-temps. Je me suis dit, attention, dimanche prochain, on va prendre une raclée comme jamais on a pris de raclée.
C'est vrai que vous aviez un Domenech avec vous.
On avait peut-être pas le meilleur candidat, mais on avait surtout... Mais ça a été uniforme.
Le spécialiste du foot avait dit la même chose.
Non, non, mais il comprend très bien ce que je veux dire.
En 98, avec je ne sais même plus qui était l'entraîneur...
avec Jacquet.
Avec Jacquet, oui, on était tous pareils en couleur.
Non, mais ça a été... Au deuxième tour, Jacquet, il a gagné. Bon,
donc... Ça a été à peu près la même chose sur tout le territoire national. C'est la raison pour laquelle moi j'ai compris que c'était un signal contre le président de la République et contre le gouvernement, et non pas... un signal contre les présidents de région ou les candidats au régional, qui certains étaient bons, d'autres l'étaient moins, peu importe. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, les Français vont dire ce qui s'est passé, c'est-à-dire, vous n'avez pas entendu la première fois, on va vous remettre une couche pour la seconde fois. Et c'est ce qui s'est produit. Et moi, j'ai dit, et c'est, pour cela que, voilà, c'est pour ça que l'Élysée m'a appelé, moi, j'ai dit... tout venait de l'attitude du président. Voilà. Et donc j'ai critiqué, j'étais le premier à critiquer l'attitude du président. Et je vais vous le dire.
Ah, le premier, non, le premier c'est Villepin. Et au niveau régional, c'est Jean-Pierre Grand.
Non, enfin, disons le premier dans le camp sarkozyste. Voilà. Parce que les autres, ils sont en dehors du camp sarkozyste.
D'accord.
Et si j'ai critiqué cette attitude, c'est parce que quand vous êtes un député de terrain comme moi, et je suis. C'est ce qui a interpellé Nicolas Sarkozy. Je suis un soutien au président de la République parce que j'ai porté avec lui cette campagne de 2007 et je suis un des premiers à reconnaître que si j'ai été élu en 2007, c'est grâce à lui, grâce à son élection.
Votre collègue, c'était sur la forme.
On avait un véritable message. Mais la forme, c'est très important.
C'était sur la forme.
Rappelez-vous ce qui s'est passé quand il y a eu l'affaire Broglio. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand il y a eu l'affaire de l'EHPAD et de son fils. Mais ça a été dramatique. Et bien qu'il n'y soit peut-être pour rien dans la façon dont ça s'est produit, parce que légalement, il n'y avait rien à redire, il était conseiller général et il pouvait prétendre à cette élection. Mais de voir qu'il n'avait pas, ou lui, ou son entourage, le bon sens pour imaginer l'impact négatif que ça allait avoir au niveau des Français, je me suis dit, on ne peut pas laisser passer ça. Et ça, il faut que Nicolas Sarkozy...
C'est une conception du pouvoir, ça.
Et il faut, non. Et il faut que Nicolas Sarkozy s'en rende compte.
Et pratiquement, vous le traitez d'incompétent.
Ce n'est pas un problème d'incompétence. C'est un problème de... Il faut qu'il revienne avec les pieds sur terre. C'est que, comme on vous l'avait dit, il était déconnecté de la réalité. Et d'ailleurs, pas à cause de mon coup de gueule, mais au lendemain du résultat des régionales, parce qu'il a enfin admis, contrairement à ce que disaient les sondeurs, qu'il ne s'agissait pas d'une sanction contre le président de la République ou le gouvernement, mais que c'était un mauvais résultat au niveau des élections régionales. Non, il a compris in fine, après le deuxième tour, que cette sanction, elle s'adressait à lui et que son comportement ne convenait plus. Et d'ailleurs, vous le voyez, il a changé de comportement depuis. Ce n'est plus le même homme.
Ça, c'est clair.
Je ne dis pas que tout est parfait. On ne le voit plus. Mais ce n'est plus le même homme. Aujourd'hui, il est beaucoup plus posé. Il prend des décisions qui sont beaucoup mieux réfléchies. Il consulte un peu plus, pas autant comme je pourrais le souhaiter, à mon sens, les ministres. Peut-être que le Premier ministre... est effacé, c'est vrai, mais c'est un homme solide avec qui ils ont Sarkozy a des discussions franches et profondes. Et je pense que ça se passe plutôt mieux. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les sondages, malgré la crise, malgré les difficultés que l'on rencontre, il continue à remonter un peu. Et vous allez voir ce qui va se passer au lendemain de l'Euro 2016 qu'on a récupéré grâce à tous nos footballeurs. Zidane en est un des premiers.
L'Euro 2016, parce que vous le voyez élu en 2012, vous ?
Non, pour l'Euro 2016 et parce que le président de la République est également intervenu dans ce dossier. Vous verrez qu'il va remonter également un petit peu dans les sondages parce que ça, ce sont des éléments positifs. Il a joué son rôle. On demande au président, c'est ce que je lui dis, Monsieur le Président, soyez président. Il n'était plus président. Il y avait le côté gouvernance. Il s'est représidentialisé.
Il y avait le côté gouvernance. Mais en même temps, vous avez critiqué une deuxième chose. Vous avez critiqué son ouverture à gauche.
Ah ben l'ouverture à gauche.
Alors, qui sont ces ministres de gauche qui vous déplaisent tant ?
Non, mais
Besson, Kouchner, oui, Besson, Amara, Hirsch,
c'est pas le...
Mitterrand, quoi qu'il n'ait jamais été de gauche, mais le nom.
Mitterrand, c'est l'enseigne.
Mitterrand, il n'est pas de gauche, il n'a jamais été de gauche.
Non, pas de gauche, mais c'est l'enseigne, il a piqué l'enseigne. C'est l'enseigne.
Le patronyme.
C'est l'enseigne de la gauche.
Mais donc, cette ouverture à gauche, qui c'est qui vous déplaît là-dedans ?
On en a parlé de l'ouverture à gauche quand je suis allé dans son bureau. Et il m'a dit l'ouverture à gauche, ça a été un moyen d'être président de tous les Français et de rétablir un peu la paix sociale entre les différentes sensibilités. Et il m'a dit, regarde, il n'y a pas eu quand même d'événements graves, il n'y a pas eu de mouvements sociaux profonds alors qu'on est en difficulté. Et lui attribuait ça à l'ouverture à gauche. Alors moi, je vais vous dire pour l'ouverture à gauche, je ne suis pas contre qu'ils prennent des ministres de gauche, qu'il l'ait fait quand il a été élu, c'est à mon sens...
Plus personne de gauche.
S'il le fait sur des compétences, je ne vois pas Kouchner, c'est un type qui est reconnu au plan international, c'est sûrement...
Qu'il l'était, parce que maintenant, il n'est plus là.
Oui, non, mais il a été complètement anéanti depuis. Mais bon, c'était probablement...
Pourquoi il a été anéanti ?
C'était probablement un bon choix.
Mais qui c'est qui a de gauche, le gouvernement, aujourd'hui ?
Mais arriver... Si, il y en a encore...
Vous avez vu le titre de Marianne cette semaine,
à propos
de Kouchner.
Le dernier est parti.
Vite.
Non,
mais
il y en a pas de gauche.
Aujourd'hui, et heureusement que ça s'est arrêté. Avant les régionales, ça continuait. Que chaque fois qu'il y avait quelqu'un à désigner, ce soit prioritairement quelqu'un de gauche. Le dernier en date qui devait passer, c'était Malek Bouti. Moi, je l'ai reçu ici, Malek Bouti. C'est un type très bien. Mais entre nous, on pouvait avoir quelqu'un qui représentait, pour représenter la HALD, qui soit quelqu'un de, ou neutre ou de sensibilité de droite, alors que Malek Bouti s'était engagé. Moi, quand je l'ai reçu ici, il n'était pas engagé politiquement. Et quelques mois après, il est passé au Parti Socialiste. Il a fait un choix. Mais arrive un moment où il faut que ça s'arrête, parce que sinon, et vous, les commentateurs, vous l'avez dit, mais attendez, vivement qu'on ait un gouvernement de gauche pour qu'on ait des gens de droite aux affaires, parce que ce sera un moyen de rétablir l'équilibre du pays. Parce que c'est ça, la réalité. Quand vous voyez...
Non, mais à gauche, on fait tout ce qu'il faut.
Quand vous voyez que...
Non. Moi, j'allais pas dire comme toi. Moi, je dis que le président, quand il prépare sa succession, il se dit, merde, si je ne suis pas président en 2012, au moins que ce soit DSK. Donc, en fin de compte, DSK, c'est le poulain de...
C'est la poulaine de Sarko pour les... C'était notre première débat.
Voilà, non, on revient au début.
C'était notre premier débat. Alors, maintenant,
c'est ça l'ouverture à gauche.
Non, vous avez critiqué Sarko sur deux choses. Son mode de gouvernance, ok, son ouverture à gauche. Après, moi, je m'interroge. Vous avez été...
J'ai pas critiqué que ça. Hein. J'ai critiqué aussi le fait qu'on ne va pas assez au fond des réformes. On ne va pas assez au fond des réformes. Il nous a fait faire des lois, la loi Hadopi, par exemple. Moi, je voulais pas la voter, je l'ai votée par discipline de groupe. Parce qu'on m'a menacé de... Bon, il y avait des contreparties, si vous voulez.
C'est Clayon.
Le groupe, on a une discipline de groupe à respecter.
C'est copé.
Est-ce que c'est démocratique, ça, le système de discipline de groupe ?
C'est pas tout à fait démocratique, et j'en conviens. Quand il y a un mauvais texte, il ne faut pas le voter. Et je suis d'accord que...
Il y a eu pas mal de choses
qui se sont passées. Mais quand ça prend une tournure politique, ou quand vous voyez que la gauche fait un coup, comme ils nous ont fait sur Hadopi, mais à ce moment-là, vous faites abstraction de la qualité du texte et c'est le vote droite ou gauche qui prévaut. Et c'est pour ça que parfois on est amené à voter des textes qu'on ne partage pas réellement. Moi, je suis quand même un député discipliné. On ne peut pas mettre le gouvernement en permanence en difficulté.
Voilà.
Mais,
ça,
je
ça,
vous le
ça,
redis,
ça, c'est le côté
on n'est pas toujours...
Garçons,
je vous
on
prends.
En connaît des fonctionnaires disciplinés.
Je vous prends un exemple.
C'est le rôle d'un député discipliné.
Si un député peut être discipliné, mais il peut avoir aussi son franc-parler et avoir des idées. J'ai des idées pour gouverner la France, et chaque fois que je peux les exprimer, je l'exprime. Et quand je ne suis pas d'accord avec le président de la République, parce que je considère qu'il est en train de dériver sur des comportements qui ne sont pas dignes d'un président, je l'ai dit,
Vous avez trouvé Sarkozy à un moment quand même quelque part indigné.
Non, parce qu'il n'était plus président.
Indigne, c'est indigné.
Nicolas Sarkozy, à un moment donné, il mettait tellement les mains dans le cambouis qu'il n'était plus président. Et donc l'impopularité qu'il a récupérée, c'était l'impopularité d'un mi-mandat pour quelqu'un qui était à la fois président, mais surtout Premier ministre.
C'était aussi
ça, le véritable problème.
En l'occurrence, vous avez été invité à l'Élysée,
oui.
Ou convoqué.
Invité.
Comment ça s'est passé ? Comment vous avez su que...
J'ai été invité par téléphone. J'ai reçu un coup de fil du secrétariat. Si je ne m'abuse, c'était le mercredi de la semaine entre les deux tours, alors que je m'étais exprimé le lundi. Déjà le mardi, je me disais, tiens, tu as rien entendu. Ça n'a pas traîné. Le président voulait me voir le vendredi, puis j'ai
Donc ça c'est une convocation, ça.
J'ai eu.
Il veut me voir.
Non, on m'a demandé d'abord si je pouvais me déplacer. J'ai dit que quand le président me sollicitait, j'étais prêt à me déplacer.
Bon,
donc il n'y a pas de problème. Vous savez, il y en a beaucoup qui auraient fait comme moi. C'était plutôt un honneur. Moi, je l'ai vécu comme un honneur de pouvoir lui dire en face ce que j'avais à lui dire.
D'accord.
Parce que croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup qui sont allés dans son bureau. Je n'y étais jamais allé avant.
Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit avant qu'on rentre dans tous les détails de la chose? Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Non, vous étiez en colère avant de rentrer, mais après, dès que vous avez franchi le pas, vous étiez moins en colère.
Alors, on va revenir sur les détails, sur les détails de comment la rentrée.
Non, mais
après, vous étiez impressionné.
Je vais vous dire ce à quoi je m'étais préparé. Ah, ça, c'est plus intéressant.
Dites-moi.
Parce que vous savez, quand vous êtes.
Non, ça, on s'en fout, ça.
Non, si.
Qu'est-ce que vous lui avez dit?
C'est intéressant.
Vraiment.
Mais je vous dirai aussi.
Il ne nous reste plus qu'à peine un quart d'heure.
Oui, mais L'entretien n'a duré que demi-heure. Donc, mais cette demi-heure, c'est pas mal.
Oui, mais justement.
Mais on a un quart d'heure, ça fait.
On va voir si monsieur Domergue a le sens de la synthèse.
Quand vous êtes invité à aller rencontrer le président de la République après un coup de gueule que vous avez poussé, vous pouvez vous demander comment vous allez être accueilli. C'est la première des...
C'est la première des questions que vous vous posez.
Et je savais, après m'être renseigné...
Vous doutez le coup de bâton.
Je savais par expérience que...
Un coup de langue de bras.
Mais non, pas du tout. Je savais par expérience que certains avaient été réprimandés fortement... voire pénalisé, que d'autres, au contraire, avaient été accueillis plus favorablement, etc. Donc, je ne savais pas comment... Et je m'étais préparé à toutes les hypothèses, y compris à une hypothèse musclée, virile, dirons-nous, où j'aurais pu défendre mon point de vue par rapport à un président qui aurait pu être plus...
Et alors, concrètement,
s'est passé dans la douceur, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il a joué sur la corde sensible, en me disant...
Vous l'aviez jamais vu, Sarkozy?
Non, mais vu physiquement, proche. Mais bien sûr que je l'ai vu à plusieurs reprises,
voilà,
mais pas comme ça.
J'allais presque dire comme presque nous tous.
Mais pas en tête à tête.
Et chacun sait, et au niveau média, que Nicolas Sarkozy est un enjôleur, c'est le moins qu'on puisse dire.
Écoutez.
Il a tous les registres.
Pour ceux qui sont passés, il y en a un paquet qui aurait voulu qu'il soit enjôleur et qu'il ne soit pas dur comme il l'a été.
D'accord.
Donc Sarkozy, c'est un homme qui peut être très ferme. Et il était comme ça avant, parce qu'il est exigeant. Il m'a fait venir parce qu'il a été interpellé qu'un député de base, moi je me considère comme un député de base, c'est-à-dire celui qui est sur le terrain, qui est un fidèle, parce que je suis un Sarkozy de la première heure. J'ai fait partie des 100 premiers députés qui ont fait... Non. Je vous dis ce que moi, je suis à ses yeux. Je suis un sarkozyste de base, un député de base, qui, depuis la première heure, l'a soutenu. Et il s'est dit, mais pourquoi un type comme ça est venu publiquement dans la presse me critiquer? En fait, c'est ça la vraie question. Que ce soit un Jean-Pierre Grand qui le critique, il s'en fout, c'est
mais
tous les jours.
Il ne vous a pas reproché de ne pas l'avoir fait directement auprès de lui?
Il m'a demandé...
D'être passé par la presse, par les médias?
Pourquoi? Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je lui ai dit, écoute Nicolas, il faut que ça change, parce que on va droit dans le mur. Il faut que ça change, parce qu'on va droit dans le mur. On était trois à l'entretien.
C'est qui le troisième?
Il y avait Olivier Biancarelli, qui est l'attaché parlementaire. Donc, du président, qui est celui qui est en relation directe avec les parlementaires, qui était là dans la salle d'attente quand j'attendais. J'ai vu passer Guéant, j'ai vu passer Soubi, tous les... Je vois l'ambiance qu'il y a autour de Sarkozy. Ça se passe très bien.
Vous n'avez pas vu
l'ombre
de Gros Souvre?
On est passé dans le bureau de Sarkozy. Et donc, après m'avoir expliqué la situation...
Ils vous ont offert un petit gâteau,
Non, rien du tout. On n'a rien pris.
On va y venir.
Ça a duré demi-heure. L'interview a duré...
Ici, quand vous volez, ici, on boit du vin.
Non, mais attendez, je vais vous dire ce qu'il faisait après.
Mais quand même.
Je vais vous dire ce qu'il faisait après, comme ça vous comprenez pourquoi il ne m'a pas invité à déjeuner. Donc, c'est parce que c'était 11h30 midi, le rendez-vous. Donc, on a discuté pendant demi-heure. Il m'a d'abord fait un topo, si vous voulez, sur la façon dont il voyait, lui, la situation. Ensuite, il m'a dit, je t'écoute. Donc là, j'ai pu exposer mon point de vue. Je lui ai dit, écoute, il y a des choses qui en fait très mal. On ne peut pas continuer avec des... Que ce soit l'affaire de Proglio ou, je lui ai dit, l'affaire de ton fils, ça a été dramatique. Parce que nous, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a senti? Moi, le Front National, je l'ai senti au moment de l'affaire de l'EHPAD. Quand il y a eu cette histoire-là, j'ai vu les gens révulsés. Pourquoi? Parce que vous étiez sur la une et vous aviez Sarkozy qui faisait un discours sur l'école en vantant la promotion au mérite. Vous passiez sur la 2 et vous aviez le fils Sarkozy qui allait être promu PDG de l'EHPAD, alors que ce gamin, il a sûrement des qualités, tout au moins des qualités.
Mais ça fait une paire d'années qu'il essaie d'avoir un peu plus.
Mais ça fait 3 ans qu'il essaie d'avoir la deuxième année de droit, il n'y arrive pas. Bon, c'est sûrement un garçon très bien, mais ce n'est pas le phénix qu'on a voulu nous présenter. Donc je crois qu'il arrivera sûrement en son temps, mais qu'il prenne le temps.
C'est un peu l'équivalent, de Manuel Valls, quoi.
Ça a fait un mal terrible au président de la République.
Il a fait des études en politique, quoi. On avait Manuel Valls il y a quelques jours, et c'est un peu ce qu'on a reproché à Manuel Valls.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Au niveau études... rien, quoi.
C'est pas le pire à gauche, Valls.
C'est pas le pire. C'est inscrit.
Parce qu'il a du bon sens.
Au niveau fac d'histoire... Enfin, on va dire maintenant, je vais dire la chose concrète, c'est mon petit couteau historien. Alors j'ai envie de dire à Jacques Domergue, alors raconte comment ça s'est passé.
Comment ça s'est passé
avec le petit Nicolas.
C'est la chanson de Beko.
Voilà, et on reprend tout depuis le départ. Alors, l'arrivée à l'Élysée, par quelle porte?
À part la porte habituelle.
Ouais, on est venu vous chercher l'aéroport.
Non, mais
attendez, mais nous, on est autonomes, les parlementaires.
Alors,
mais Johnny Hallyday, il va aller chercher à l'aéroport.
Depuis Clémenceau et Marcelin Albert, le président ne va jamais chercher les gens au train ou à l'aéroport. Il les fait venir, mais on va y venir après.
Quand ce sont des invités de prestigieux, il les reçoit sur le parvis.
Vous êtes arrivé en voiture,
à pied. Je suis arrivé en taxi.
Le taxi, il n'est pas rentré dans la cour de l'Élysée.
Non, il m'a laissé devant l'Élysée.
Donc vous êtes rentré à pied.
Je suis rentré à pied dans l'Élysée. On m'a fait monter au premier étage.
Mais vous arrivez. On vous dit, attends, quittez, toi.
Non, mais vous montrez vos papiers
à
l'huissier qui est à l'entrée.
Ouais, parce que j'imagine, moi j'arrive.
Il regarde
j'ai rendez-vous avec Nicolas.
Alors, si vous avez oublié la carte d'identité, vous étiez foutu.
À l'Élysée, j'ai toujours ma carte de parlementaire, ça sert tout de même. Mais quand vous arrivez à l'Élysée, vous pouvez être reçu par plein de personnes. Il y a 1000 personnes qui travaillent à l'Élysée, vous pouvez avoir beaucoup de rendez-vous.
On vous laisse rentrer.
Par le président de la République, donc on vous laisse rentrer.
Alors ensuite.
On vous accompagne jusqu'au perron. Puisque vous traversez la cour pleine de gravier, et vous arrivez jusqu'au perron, et là, vous avez un huissier qui vous récupère et qui vous fait monter. Et j'ai attendu.
Et là, tout d'un coup, Jacques Domergue, une émotion quand même. Il est à l'Élysée.
Non, mais l'émotion, elle n'était pas liée. Mais l'Élysée, je suis allé plein de fois. C'est pas le problème.
Ah bon, c'est la première fois.
On y va souvent à l'Élysée. Mais on va dans la salle des fêtes.
Et nous, non.
On va dans la salle des fêtes de l'Élysée où on est reçu avec tous les parlementaires, mais je n'étais jamais monté au premier étage. Je n'étais jamais monté.
Donc c'est quand il gravit l'escalier,
quand
tout d'un coup,
monte au premier étage,
il y a une petite montée d'escalier quand il gravit l'escalier. Voilà.
Et là, c'était pas le fait.
C'est juste de franchir le porche.
Vous les avez comptés, les escaliers.
On joue pas dans la même cour.
Non, mais vous savez, moi, c'est pas le fait.
Les marches, je parle.
C'est pas le. Je suis difficilement impressionnable.
Donc j'avais une question impressionnée ou blasée. Réponse blasée. Jusqu'au premier étage.
Non, c'est pas le fait de rencontrer le président de la République qui était un peu, qui m'interpellait. C'était le fait de savoir comment j'allais être reçu.
Alors, quand même,
c'est pour ça que...
Quand même, l'huissier qui dit, je suppose, monsieur Jacques Domergue, député, de l'Hérault, l'annonce, quoi.
Oui, mais j'ai attendu 10 minutes. Il y avait Soubi qui était en train de discuter avec Brossard ou Boudard, je ne sais pas comment il s'appelle, le publiciste là, qui est un pote à Sarkozy et à Guéant. Donc, ils étaient en train de regarder sur un ordinateur. Je les ai salués. Ensuite, Guéant est arrivé, il m'a salué, il est venu discuter avec eux. Donc, vous voyez, tout ça en attendant les 10 minutes où j'ai attendu que le président termine. Ensuite, le président...
Vous aviez rendez-vous à quelle heure?
J'avais rendez-vous à 11h30, je crois. Il y a une personne qui est sortie Et ensuite, on m'a fait rentrer. La discussion a duré demi-heure. Et
attendez, vous rentrez.
On va rentrer dans les détails.
Non, mais vous rentrez. Alors, vous rentrez dans le bureau du président.
Il était en chemise, tiens, en bras de chemise.
Ah, tiens, voilà. Donc, il était en chemise, cravate, pas de cravate.
Oui, cravate.
Bon, chemise. Oui. Alors, bon,
il portait pas de veste.
Oui. Il est en chemise. Et là, il vous accueille comment? Salut Jacques, ou Jacques, monsieur le député, bonjour.
Comment ça va? Il a parlé à Biancarelli pour le
Poli,
d'autres choses qu'ils avaient.
Poli courtois et tout.
Ah, mais très
chaleureux. Poignée de main.
Oui, poignée de main.
Non, attendez. La main sur l'épaule, tripotée, option de Angela Merkel.
Vous êtes tapé sur l'épaule?
Non, il m'a fait la collade.
Ah, bah voilà. Ah, oui, c'est voilà. Ce que je dis. Donc, c'est tripoté, option Angela Merkel. Quoi. C'est la collade. Le bisou.
Alors là, vous avez été rassuré.
Ben là, je me suis dit, ça part plutôt bien.
Ça va bien. Voilà. Là, ça va bien.
Sa première phrase, c'est quoi?
La première phrase, elle a été pour Olivier Biancarelli, parce qu'ils avaient un truc en commun, donc ils ont réglé un petit problème là en 30 secondes. Et ensuite, il a commencé à... C'est lui qui a parlé en premier, bien évidemment, et qui m'a exposé, lui, la façon dont il voyait les choses.
Voilà. Ouais.
Et une fois, ça a duré 5 minutes, et puis il m'a dit, bon, alors écoute, je t'écoute.
Ouais. Un petit chocolat?
Non, on n'a rien pris.
Vous avez offert?
Vous savez, quand vous allez chez le président de la République...
Pas un verre d'eau, pas une orangeade...
Moi, on m'a dit que demi-heure chez le président de la République, c'était pas mal. Parce que souvent, en 5 minutes, c'est réglé.
Ah oui, non, mais...
Quand il veut avoiner...
Il aurait pu faire un petit chocolat, un truc...
Il m'a appelé mon Jacques.
Ah, mon Jacques.
Ouais, donc, il y avait un côté affectif, comme vous dites.
D'accord.
Je sais qu'il ne boit pas d'alcool, mais il vous a offert un petit cigare, quelque chose.
Je ne fume pas, je crois, non plus.
Rien.
Je l'ai vu fumer une fois en Espagne, avec le roi d'Espagne.
Non, mais rien, du coup...
C'est la seule fois où j'ai fumé un petit cigare. Oui.
Mais du coup, rien, quoi. Même pas une petite limonade.
Non,
une...
parce qu'il était...
Juste
après,
mon Jacques.
Après mon entrevue, il allait manger avec les médecins, des médecins des syndicats. Et justement, on en a parlé à la fin, parce qu'il m'a dit, tu sais, bon, je vais déjeuner avec les médecins, parce que tu vois, les médecins, ils nous en veulent. C'était au lendemain, c'était au lendemain du premier tour, où on voyait que 70% des médecins n'ont pas voté pour nous.
Quand ça?
Au régional.
Ah, au régional, oui. Et puis alors après, donc, moi j'avais ma petite question, sermonné, enjôlé, cajolé.
Oui.
Mon Jacques.
Il a été sur le registre de la séduction.
Vous avez été séduit alors.
Non. Et Biancarelli qui était là m'a remercié, il m'a dit, tu as trouvé les bons mots pour lui parler parce qu'il avait besoin d'entendre ça.
Et quand est-ce qu'il a dit, mon Jacques?
En entrant.
Ah, donc d'entrée.
D'entrée.
D'entrée, il draguait. Donc il n'avait pas besoin des
mots. Non, mais d'entrée, j'ai senti que ça allait pas être un pugilat.
Voilà, ça allait se passer.
Parce que moi, j'étais prêt aussi à.
Et c'est pas ah,
j'avais des arguments.
Oui, ah, oui, donc si jamais il a joué.
Je suis catalan.
D'accord, donc si jamais il a joué
donc, Cowboy. Quand je suis dans mon endroit, je suis intraitable.
Ah, ça pourrait finir carrément basque, option au théâtre.
Non, mais je crois que.
Alors ça ne se passe pas tout à fait comme au temps de Louis Oz. Parce qu'au temps de Louis Oz. C'était quand l'entretien ne se passait mal, on est directement dans une cage.
Dans la cage.
Dans les sous-sols. Comment vous voilà en face de nous, on est rassurés.
Bon, et comment vous savez que l'entretien est fini? Je suppose que, non, en ce qui vous concerne, plus ça dure, plus c'est du bonheur.
Non, mais on a abordé plusieurs aspects hein, sur l'analyse. Lui, il était convaincu, même là, que cette élection régionale allait être une élection régionale.
Mais il était déjà vaincu, convaincu.
Il commençait à entendre.
Oh, bon, je reconnais, non, je ne la refais pas.
Elle n'est pas terrible, non.
Je retiens.
Il commençait à peine à entendre le mécontentement des Français à son égard. Voilà. Mais
vous croyez qu'il les a tous entendus?
Il fonctionne.
Là, il change de discussion. Mais...
Bien sûr.
Et alors après, comment est-ce qu'il vous fait signe? Comment il vous fait comprendre que bon, bah, l'entretien est terminé?
Ça, vous savez, ça se comprend très vite
en fonction
de la discussion.
Je pense que vous étiez assis tous les deux.
Il ne m'a rien demandé.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la Rolex?
Non, pas du tout. Il ne m'a rien demandé. La discussion, c'est...
Bon Jacques, il dit.
Jacques.
La discussion s'est terminée normalement entre deux personnes qui se connaissent et qui s'apprécie.
De façon intuitive.
Sarkozy, il a des qualités et il a quelques défauts. Et là, il fallait lui rappeler qu'il avait des défauts aussi. Voilà.
C'est
pas plus compliqué que ça.
Il s'est pas levé, je sais pas, un moment, pour faire comprendre que...
Non, il s'est assis. Il s'est assis, il y a une espèce de canapé. Moi, j'étais sur un fauteuil, bien car il était là. Et lui, il était sur un petit canapé à deux places. Là, vous voyez, voilà. De part et d'autre, dans le salon à côté du dans le bureau.
Ah, puis après vous partez. Puis
là, le bureau de Gaulle, de Mitterrand et tout ça, c'est quand même
voilà, impressionnant d'aller dans ce bureau. Et après vous partez quand même, c'est un petit moment de bonheur.
Ah non, mais je suis parti
retour maison.
Relativement satisfait parce que d'une part, bon, ça s'était bien passé, et ensuite parce que j'avais pu faire passer un message.
Et puis, moi, ce que je voulais. Sortant, vous n'êtes pas allé au premier troquet du coin, vous tapez un bon whisky, un truc comme ça.
Mais non. C'est bon, je l'ai eu. Enfin, non, parce que. Vous savez, je vous le répète.
Ah, quand même, en sortant, je
m'étais préparé à toutes les éventualités.
Et avec votre portable, vous avez appelé au portable
y compris,
un taxi pour qu'il vienne vous chercher.
Non, je suis rentré à pied à l'Assemblée.
Qu'est-ce que vous êtes dit? Oh, ça a bu un coup quand même pas.
Non.
Non, rien, même pas.
Qu'est-ce que vous êtes dit? Attendez, mais.
Rien. C'est un petit moment de bonheur.
On a fait un monde de l'Élysée.
Non, je sais pas.
Non, moi je suis sûr que là il s'est dit, ah bon, c'est bon, 2012, je suis encore candidat.
Non, moi ce que. Vous savez, au moment des régionales, je pensais que.
Quand on rencontre Sarkozy, excusez-moi, c'est un moment de bonheur absolu, au sens presque latin du terme, absolutus, délié des lois. Et justement, donc te dire, là sur ce coup-là, c'est bon, là. 2012,
je suis candidat, c'est bon.
Je vais vous dire mon sentiment sur Sarkozy. Je pensais, quand, après les élections régionales et après l'avoir vu, je me disais, il ne pourra pas ou il ne sera pas en situation d'être candidat en 2012. Parce que je voyais que sa popularité est très très faible, qu'il avait de gros, que la crise n'arrangeait pas les choses.
Et puis Carla, a priori, n'est pas forcément favorable.
Qu'il avait de gros dossiers avec les retraites, la réforme territoriale qui nous met les élus à dos. Les retraites, ça nous met beaucoup de monde à dos, notamment parmi nos électeurs. La programmation agricole qui est difficile avec des agriculteurs qui ont du mal à vivre, etc., etc. Il y a plein de gros dossiers qui sont en suspens et qui ne sont pas des dossiers faciles pour un président de la République. Alors, ou pour un Premier ministre.
Donc je disais, on arrive pratiquement.
Il ne sera pas candidat. Aujourd'hui, alors qu'il remonte un petit peu dans les sondages, je me dis qu'il se comporte plutôt comme quelqu'un qui voudrait être candidat. Et d'ailleurs, il a eu une phrase la dernière fois qu'il nous a reçus à l'Élysée, il y a 15 jours, où il a dit « On traite les dossiers les uns après les autres jusqu'à mi-2011 et après l'été 2011, on fait de la politique. » Donc c'est clair.
Le générique vient d'être envoyé, c'est la fin de l'émission.
Déjà ?
Oui, juste une dernière position. À 1h30, c'est très court. Alors, c'est trois fois plus long.
Une confidence, je n'ai pas vu Carla dans le bureau du président.
C'est trois fois l'entretien avec le président.
Voilà.
Trois fois l'entretien.
Et là, bon, par contre, il y a une rumeur qui court. À Paris, on enverrait quelqu'un, voire quelqu'une, à Montpellier pour prendre la mairie de Montpellier, quelqu'un de l'UMP. Comment elle s'appelle ? Vous avez son nom ?
Vous l'avez choisi ?
Non, on n'a choisi personne. Vous savez, ceux qui voudront se frotter à la mairie de Montpellier, ils ont beaucoup de courage. Moi, j'ai vu qu'à Lyon, Perben, qui est quand même un ministre qui a été un ministre de qualité, Perben a perdu dès le premier tour contre Colomb. Je vois qu'à Toulouse, on a perdu la ville. Et Montpellier ne sera gagnable que dans une situation d'alternance au plan national. C'est-à-dire que si en 2012... la gauche gagne les élections présidentielles, le retour de Manivelle de 2014 est évident. Si c'est la droite qui est encore aux affaires en 2014, il y a peu de chances. Donc DSK, moi je vais vous dire mon sentiment sur DSK. DSK,
il va voter Sarko aux Européennes.
Non, DSK, il a un problème de sérieux, DSK, mais c'est un homme qui va plaire à la droite. C'est un homme qui peut avoir le soutien d'une certaine gauche, pas de toute la gauche, notamment la gauche très à gauche ne le soutiendra pas.
Et
c'est un homme qui représente
si parler,
les équilibres financiers
problème,
et on en aura peut-être besoin.
Je m'arrête là.
Jacques Domergue.
Non, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci de votre venue. Et il y a une chose qu'on peut dire, le renard. Jacques Domergue, ça fait une paire de fois qu'on le reçoit. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Il fait des progrès en politique.
Ah oui, c'est toujours avec plaisir.
Il fait des progrès.
Vous me cuisinez, c'est pour ça.
Il fait des progrès en politique. Jacques, merci d'être passé.
Merci.
Et de toute façon, on ne sera pas sans se revoir. Bon, divergentes et divergents, à la semaine prochaine. On ne sait pas encore qui ce sera. Ça pourrait bien être le camarade de Chivardi. Mais on attend sa réponse. Ah oui, on a pas Chivardi cette année. Donc il nous le faut absolument si c'est pas la semaine prochaine.
Il a été encore reçu par le président de la République.
Approvisionnez-vous en rouge.
Non, Chivardi ne boit jamais. Divergent, à la semaine prochaine. soyez sages et n'oubliez pas que la révolte n'est pas un droit, mais un devoir. Tiens.
Dans le pré, à danser d'une fois.